Nous voulons reprendre notre Bible et l'ouvrir au livre de Daniel, au chapitre 1er. Daniel, chapitre 1er, nous relisons le verset 8, nous y ajoutons le verset 9 et la fin du chapitre, c'est-à-dire les versets 17 à 21. Daniel chapitre 1er, versets 8 et 9 et 17 à 21. Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria, il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Verset 17. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Nous avons donc jusqu'ici décrit hier soir l'arrière-plan historique de l'histoire de Daniel, ces grands événements très importants, ce grand tournant dans l'histoire des peuples de cette époque, Égypte, Assyrie, Empire babylonien ou chaldéen. Nous avons évoqué au début de l'après-midi, le fondement de l'attitude de Daniel, la place qu'occupait la parole de Dieu dans sa jeune vie, à cause de l'exemple donné par ses aînés dans son enfance et déjà dans sa petite enfance. Et enfin, dans la deuxième partie, cet après-midi, nous avons évoqué ce foi, choisir Dieu, c'est choisir la sainteté. Choisir Dieu, c'est choisir la sainteté. Nous avons traité un premier aspect. Nous avons évoqué la haute vocation d'Israël, peuple mis à part pour refléter d'une manière toute particulière la beauté du caractère de Dieu et préparer ainsi la venue du Messie. Nous avons vu comment, peu à peu, Israël a tourné en dérision cette haute vocation, comment ce peuple mis à part s'est détourné de l'Éternel, est tombé de décadence en décadence, de corruption en corruption, jusqu'à ce que la coupe de la colère de Dieu soit obligée de se déverser sur lui après un temps de si longue patience. Et nous avons vu cette ère tout à fait particulière de l'Église prendre le relais pour un temps. Nous appartenons à ce temps. L'Église, avons-nous dit,
le rassemblement des saints, un rassemblement de sainteté. Vaut-il peut-être la peine de préciser, puisque nous l'avons déjà fait hier soir, que dans le livre de Daniel, il ne s'agit pas simplement de l'histoire, du moins dans les six premiers chapitres, les chapitres historiques, il ne s'agit pas simplement de l'histoire d'un jeune homme. La parole de Dieu n'est pas pour l'individualisme, même si Dieu considère l'individu, si chaque être est profondément précieux au regard de Dieu. La Bible accorde une place prépondérante, très importante, primordiale, à l'équipe. Et l'équipe, dans le début du livre de Daniel, annonce l'Église. Et je vous redis de la part de Dieu l'importance de l'Église locale, de l'Assemblée, de la communauté des croyants, l'importance de ne pas s'isoler. Cette équipe a été victorieuse parce qu'elle était équipe, parce que c'était des jeunes gens qui savaient prier ensemble. Nous verrons demain matin dans notre conclusion cette équipe, ensemble, présenter une harmonie de caractère qui était un défi à la cour de Babylone. Et je dis ceci parce qu'évoquant cette question de la sainteté et l'utilisation du mot « saint » dans les Écritures, il est bon de savoir que dans le Nouveau Testament, le terme « saint », lorsqu'il est utilisé non pas comme adjectif, ce qui est très fréquent dans les Écritures, mais lorsqu'il est utilisé comme nom, n'est jamais au singulier. C'est-à-dire que dans 61 ou 62 textes du Nouveau Testament qui utilisent ce terme, le terme en tant que nom, le saint, n'existe pas. Il est toujours au pluriel. Comme si Dieu avait précisément voulu insister sur l'importance de l'Église. La notion catholique, dans la doctrine catholique du saint, n'est pas du tout une notion biblique, ne fût-ce que à ce niveau du pluriel constamment utilisé par le Nouveau Testament. Les saints, nous sommes le peuple des saints. De la même manière qu'il n'existe pas un ancien tout seul dans une église locale, mais toujours un collège, c'est aussi un pluriel par excellence. De la même manière en ce qui concerne le peuple des saints, il s'agit toujours d'un pluriel.
Nous avons vu donc l'église rassemblement des saints dans une dimension de purification, de nettoyage de la conscience par le sang de Christ, de revêtement de Jésus-Christ. Nous avons revêtu Jésus-Christ. Un grand message. Nous voulons faire un pas de plus et évoquer une seconde dimension très importante de la sainteté dans la vocation de l'Église. Et ici, je voudrais évoquer la dimension de séparation, de séparation continuelle d'avec l'esprit, la mentalité de Babylone. Daniel était dans la grande Babylone de son époque, mais il n'était pas de la grande Babylone. Et nous avons vu cet après-midi comment Daniel et ses compagnons formaient en quelque sorte un îlot de sainteté, un tout petit îlot de sainteté et de lumière dans un océan d'obscurité et de tempête d'idolâtrie, de corruption, d'orgueil, d'occultisme, une sorte de base de lancement d'envergure pour l'œuvre de Dieu,
là, sur cette terre de Babylone, une sorte d'air d'envol.
Dimension de séparation continuelle. Nous le savons, le croyant est dans le monde,
mais il n'est pas du monde. Il est dans le monde.
Et nous devons avoir cet équilibre.
Et vraiment réaliser que nous sommes dans le monde.
Il est très frappant de constater que dans
le tabernacle et dans l'ensemble du tabernacle
et jusque dans le lieu très saint,
alors que l'intérieur du sanctuaire était extraordinaire lorsqu'on regardait dans l'air, lorsqu'on regardait les murs, que d'or, que de lumière, qui figurait la gloire de Dieu et la beauté de Jésus-Christ, lorsque les regards se fixaient sur le sol, c'était comme ici. C'était le sol du désert. Il fallait qu'en tout temps, ceux qui officiaient dans le lieu saint et le souverain sacrificateur une fois par an dans le lieu très saint, il fallait qu'en tout temps ils se souviennent qu'ils étaient encore sur la terre et qu'ils avaient une vocation en tant que peuple au milieu des hommes.
Être enfant de lumière dans un monde de ténèbres. Je vous rappelle simplement ce texte très connu de la première épître de Jean au chapitre 2, dans les versets 15 et suivants. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez point le monde.
C'est là le message de Daniel. Qu'est-ce que c'est que le monde? Ce monde que, par ailleurs, paradoxalement, semble-t-il, Dieu a tant aimé. Le cosmos, littéral. Le cosmos. C'est là le terme grec traduit par ce mot « monde ». Le cosmos, qu'est-ce que c'est? Le terme grec signifie simplement l'ordre. L'ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et le cosmos est une démonstration extraordinaire de la beauté, de l'harmonie, de l'ordre de Dieu. Et vous savez que nombreux sont les scientifiques, les astronomes, qui témoignent en faveur de cet ordre et qui sont toujours plongés dans l'émerveillement en voyant cette extraordinaire horloge dont parlait ce philosophe français bien connu Voltaire. Immense horloge, l'ordre de Dieu. Au passage, pour les dames, le Nouveau Testament évoque dans la famille de ce terme cosmos d'autres mots, dont le mot qui a donné en français, par exemple, les cosmétiques. C'est intéressant. Cosméo, le cosmos, l'ordre. Alors ici, il nous est dit qu'il ne faut pas aimer l'ordre. Quel ordre? Il ne faut pas aimer l'ordre qui est une organisation de la puissance des ténèbres et qui est une caricature de l'ordre de Dieu. Parce que si Dieu a son ordre, et si l'ordre de Dieu et merveilleusement harmonieux, Satan, dont Luther a dit qu'il était le singe de Dieu, caricature en permanence l'ordre de Dieu. Il a sa propre organisation. Et cela se traduit par toutes sortes d'expressions de mentalité qui sont des mentalités appartenant aux princes de ce monde. N'aimez pas le monde, n'aimez pas ce système de pensée qui se traduit en structure particulière dominée par la puissance des ténèbres.
Si quelqu'un aime ce système de pensée, cette mentalité, cette manière d'être et de faire qui appartient à la puissance des ténèbres, caricature de l'ordre de Dieu, l'amour du Père n'est point en lui.
Et l'apôtre Jean, inspiré par Dieu, d'expliciter, de développer cette idée en montrant les trois grands volets, c'est une manière d'exprimer la chose.
Et il parle donc de la convoitise ou des désirs coupables, de la chair,
ce que la maréchale Beauce appelait l'hippopotame moi, on comprend tout de suite, hein, les désirs coupables du moi naturel, le désir de briller, de régner, d'être le premier, d'avoir toujours le premier et le dernier mot, et pas seulement tout ce qui concerne la sensualité et les autres fautes plus flagrantes. Vous connaissez ce texte que nous avons lu cet après-midi, Galates 5, 19, concernant les œuvres de la chair.
Il est question ensuite de la convoitise des yeux, des désirs coupables qui passent par la fenêtre du regard.
Et nous sommes dans un monde qui attache une importance toute particulière au regard. Il existe, même maintenant, pour la publicité, des instruments très perfectionnés qu'on appelle notamment les pupilloscopes, et qui ont ceci de particulier, c'est qu'ils servent à examiner comment les pupilles des consommateurs que nous sommes se dilatent au regard des produits que nous trouvons sur les rayons de nos magasins. Extraordinaire. Et les publicistes en profitent. Et quand ils mettent au point une nouvelle publicité, on fait fonctionner les pupilloscopes pour voir comment le regard humain va réagir au niveau des pupilles face à cette nouvelle publicité. Alors en France, on a fait, à un moment donné, toute une publicité pour des pommes de terre frites, un des grands plats nationaux français. Et c'était donc des frites congelées. Et on a présenté sur cette publicité une grande assiette, un beau plat, avec ces pommes de terre frites, bien dorées, croustillantes, un peu de salade verte, et un magnifique morceau de viande, un bistec. Si vous venez chez nous, c'est ce qu'on vous offrira. Et puis on a fait fonctionner le pupilloscope. Et on s'est dit, oh, ça va marcher. Parce que le pupilloscope fonctionnait à merveille et les gens réagissaient. Hélas, on a finalement vendu beaucoup moins de frites que le pupilloscope semblait l'indiquer. Alors, les spécialistes ont revu leur plan et ils ont refait fonctionner le pupilloscope sur ce fameux plat pour voir où était le problème. Et ils se sont rendus compte que les pupilles des candidats à l'achat ne s'élargissaient pas en regardant les frites, mais en regardant la viande. Et ils en ont été pour leurs frais.
Convoitise des yeux, désir coupable qui passe par les yeux. Et puis enfin, l'orgueil de la vie.
Une expression assez étrange. Et elle est étrange parce que le terme orgueil utilisé ici est tout à fait particulier. On ne le trouve qu'à deux reprises dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le terme classique. Il s'agit ici de l'insolence, de ce qu'on appelle aussi la fanfaronnade, cette insolence par rapport au bien de la vie. Il ne s'agit pas ici du terme utilisé pour parler de la vie éternelle, mais d'un autre terme, bios, qui évoque la possession des biens. Et c'est vrai que dans cette mentalité du monde existe une insolence liée à la possession des biens matériels. Vous avez un chéquier très épais, un compte en banque bien fourni, un certain nombre de chevaux dans votre voiture, un statut social élevé, des diplômes en quantité, un métier qui vous rapporte, et vous savez que même lorsqu'on appartient à Jésus-Christ, cela suffit pour nous décramponner de notre dépendance de Dieu. L'orgueil de la vie. Voilà ce qui appartenait déjà à la Grande Babylone à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Voilà le problème devant lequel se trouvait notre jeune Daniel. Lorsqu'on lui faisait miroiter une place de haut fonctionnaire à la cour royale, le diable lui présentait l'orgueil de la vie, sa mentalité, son système de pensée, ses valeurs. Et le jeune Daniel, si longtemps à l'avance, a su obéir à cette mise en garde de la première épître de Jean. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Être un reflet de la beauté de Dieu, un héros de la sainteté de Dieu dans le monde de Satan. Quel service! Quelle haute vocation! Dans une classe de catéchisme catholique, un prêtre demandait aux enfants, se tournant vers une petite fille qui était là, dans la classe, dans une petite chapelle. Un prêtre demandait à une petite fille de lui donner une définition des saints. Qu'est-ce que c'est qu'un saint? Bien entendu, le prêtre s'attendait à ce qu'elle lui donne une définition de la doctrine catholique des saints. L'enfant était embarrassé. Et elle a regardé en l'air, elle a essayé d'allonger ses oreilles dans toutes sortes de directions pour saisir ici et là ce qu'on pouvait bien lui souffler. Et puis subitement, en regardant autour d'elle, son visage s'est illuminé. Et regardant le prêtre, elle lui a dit ceci: « Monsieur le curé, un saint, c'est un homme qui est traversé par la lumière. » Et elle lui a dit ceci tout simplement parce qu'elle avait vu les vitraux. Et les vitraux étaient traversés par les rayons du soleil de l'extérieur. Et il y avait des personnages sur chacun de ces vitraux. Et ces personnages étaient devenus resplendissants comme l'était la nature il y a quelques instants tout à l'heure au coucher du soleil. Et tout de suite, elle avait pensé que un saint ne pouvait être autre que comme ces personnages transfigurés par le soleil traversant cette mosaïque. Et c'est vrai. Cela, c'est vrai, c'est une définition biblique de la sainteté. Être homme, être femme, traversé par la lumière de Dieu, transparent, limpide, comme le dit d'ailleurs si bien le texte original. Mais attention, revenons à cette petite précision de Daniel 1:8. Daniel, nous dit le texte original, littéralement, prit à cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il résolut dans son cœur, il arrêta dans son cœur. C'est important, parce que nous traînons avec nous, parfois pendant des années, dans notre vie de disciples de Jésus-Christ, de fausses conceptions de la vraie sainteté. Il est question ici du cœur, c'est-à-dire du quartier général de notre personne, de ces profondeurs de notre personnalité où se prennent toutes les décisions, non pas simplement le siège de nos affections. Dans la parole de Dieu, le cœur est très important. Le terme est utilisé près de 1000 fois dans les Écritures. C'est un des mots essentiels du langage de Dieu lorsqu'il s'adresse à l'homme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et vous connaissez ces textes, le cœur de l'homme est méchant, tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Le cœur. Daniel arrêta dans son cœur. C'est-à-dire que sa décision n'est pas simplement une décision formelle, externe. Il ne fait pas simplement des gestes qui appartiendraient à une certaine tradition juive. Il ne fait pas cela simplement parce qu'un jour on le lui a appris, dans une sorte de catéchisme. Il ne fait pas cela parce que c'est inscrit dans un certain règlement intérieur. Non, c'est une décision qui a été pesée. C'est une décision qui a été réfléchie et qui vient des profondeurs de son être, de sa volonté, de son intelligence, de ses affections. Et de là, cette décision est remontée jusqu'aux paroles et jusqu'aux actes. Son cœur a été visité. Et c'est très, très important lorsqu'on considère cette question de la sainteté. J'ai sous les yeux une citation d'un prêtre de la synagogue de Bethléem au premier siècle. Et voilà ce qu'il écrit dans une lettre qu'il adresse au Sanhédrin de Jérusalem, donc au premier siècle. Le royaume de Dieu doit commencer en nous, dans notre vie intérieure, et y régner ensuite. Du plus profond de notre être jailliront toutes nos actions, en conformité avec les enseignements et commandements révélés par Dieu, jusqu'à ce que l'extérieur soit semblable à l'intérieur. Ainsi se fera aussi la progression des individus jusqu'aux nations. Je bénis Dieu pour l'intelligence spirituelle de ce prêtre, qui avait compris que dans le royaume de Dieu, tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Je pense à cette petite fille, elle s'appelle Suzanne. Je ne sais pas s'il y a des Suzanne ici ce soir. Bon, parfois, on est saisi quand, dans une histoire, quelqu'un porte curieusement le même prénom que nous. Il m'est arrivé une fois de me faire presque battre, frappé par quelqu'un à l'issue d'une conférence, parce que j'avais utilisé, sans le savoir d'ailleurs, non pas son premier, mais son second prénom, pour illustrer une partie du message que je donnais en me servant d'un petit canard. Et j'avais surnommé ce petit canard Frédéric. Et puis, quelqu'un s'est senti très concerné dans son cœur par le petit canard Frédéric et il m'a pris à part en me disant « Écoutez, j'en ai assez, vous m'avez visé » et il était très méchant avec moi. Alors si quelqu'un s'appelait Suzanne ici, j'espère qu'elle m'épargnera quelques problèmes à la sortie. La petite Suzanne était dans la voiture de son papa. Elle était sur la banquette arrière. Et voilà que soudain, pendant que son papa était aux commandes, là au volant du char, je vais parler québécois, et qu'il chauffait bien.
Voilà que subitement elle se met debout à l'arrière sur la banquette et elle devait suivre des cours de danse, certainement elle se met à faire des entrechats. Si bien que le papa commence à être très mal à l'aise et lui dit « Suzanne, je te demande de t'asseoir. Ce que tu fais est très dangereux. » Et Suzanne, en enfant de la fin du XXe siècle, de continuer ses entrechats. Le papa était quelque peu blessé dans son autorité paternelle et il a descendu la voix d'un cran. Et il a dit, Suzanne, s'il te plaît, assieds-toi, c'est dangereux. Suzanne, en digne enfant de la fin du XXe siècle, a continué à faire ses entrechats. Alors papa était très fâché. Et papa étant très fâché, a encore descendu la voix, je ne peux pas descendre plus bas. Et il a dit, Suzanne, tu connais ton papa. Une fois, deux fois, ça va, mais pas trois. Si tu ne t'assieds pas immédiatement, j'arrête la voiture sur le bord de la route, et en papa qui n'est pas un papa de la fin du XXe siècle, nous sortons de la voiture et tu as une fessée de la part de ton papa. Et parce que Suzanne savait que son papa tenait ses promesses, elle s'est aplatie sur la banquette. Et papa s'est redressé, fier d'avoir retrouvé son autorité. Au bout d'un petit moment, il a vu dans le rétroviseur le visage de Suzanne monter comme le soleil dans le ciel. Tout épanoui. Et Suzanne, de dire d'une petite voix, « Papa chéri, oui mon trésor, papa, tu sais, dans ma tête, je suis toujours debout. » Daniel décida dans son cœur. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire ceci ce soir, c'est que Daniel aurait pu prendre exactement la même décision si elle avait été simplement une décision formelle, de tradition. Elle n'aurait pas du tout eu la même valeur, le même poids aux yeux de Dieu. Et pour moi, c'est un défi que Dieu me lance. Quant à la valeur de mes actes de sainteté à ses yeux à lui, non pas aux yeux de mon voisin de chaise ou des autres membres de l'assemblée locale à laquelle j'appartiens, mais à ses yeux, à lui. Vous connaissez l'histoire de Lot, le neveu d'Abraham. Une querelle survient entre les bergers des troupeaux de Lot et les bergers des troupeaux de son oncle Abraham. Cette querelle s'envenime. Le territoire n'était plus assez important pour pouvoir accueillir ces nombreux troupeaux. Et Abraham se tourne vers le neveu et lui dit, écoute, tu sais, nous sommes regardés. Nous avons autour de nous des païens, dirions-nous aujourd'hui, qui nous observent. Est-ce que nous ne sommes pas de la même famille? Est-ce que nous n'avons pas obéi au même Dieu? Est-ce que nous n'avons pas parcouru ensemble la même distance depuis Ur en Chaldée, en passant par Caran? Nous ne pouvons pas vivre cette querelle. Alors, choisis. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche,
j'irai à droite. Choisis, le territoire tout entier est devant toi. Et Genèse 13, 10 nous dit ceci, c'est que Lot leva les yeux. Et il vit, sous ses pieds, tout un territoire, celui de Sodome et Gomorre, qui était un véritable jardin, délicieux, couvert de verdure, et qui ressemblait à l'Égypte. Et le texte nous dit que Lot choisit pour lui, il ne choisit pas pour Dieu, il choisit pour lui. Et ce qui me frappe, c'est précisément qu'il choisit parce que cette région était semblable à l'Égypte. Mais bien aimé, mais il avait quitté l'Égypte avec son oncle. Et il l'avait même quitté en catastrophe, chassé par Pharaon, parce que l'Égypte n'était pas dans le plan de Dieu dans l'histoire de ce jeune vieux croyant, ou ce vieux jeune croyant qu'était Abraham. Il avait quitté l'Égypte, Lot, physiquement. Et il pouvait le dire à tout un chacun, j'ai quitté l'Égypte. Je suis à nouveau dans l'obéissance à l'Éternel. Et pourtant, Genèse 13, 10 nous dit que l'Égypte était dans le cœur de Lot. Il avait quitté physiquement l'Égypte, mais l'Égypte était dans son cœur. Nous pouvons avoir quitté combien de choses physiquement dans nos vies? Nous pouvons même nous en vanter de toutes ces ruptures successives qui nous auréolent d'une certaine gloire de sainteté. Mais il se pourrait que Dieu soit obligé de nous reprocher de caresser l'Égypte dans notre cœur. Dans notre cœur. Alors même que nous affirmons nous en être séparés. Tout au long de l'histoire, des multitudes ont mal interprété le terme séparé. Toute l'histoire du christianisme, sans oublier celle du judaïsme déjà, est marquée par une mauvaise interprétation quasi permanente du terme séparé et de la sainteté. Nous pourrions passer beaucoup de temps à évoquer les situations les plus ridicules dans lesquelles se sont mis certains hommes pieux, religieux, parce qu'ils voulaient se séparer, tout ce qu'on appelle le monachisme. La vie dans les couvents, dans les monastères, les ermites. Et c'est parfois aller très loin. Certains d'entre vous connaissent l'histoire de ce moine du 5e siècle qui d'abord décida de se faire enterrer jusqu'au cou pendant plusieurs mois, pensant trouver la sainteté par cette forme de séparation, et puis comme ça ne marchait pas, il décida de poursuivre la sainteté en vivant perché au sommet d'une colonne, et peu à peu on a élevé la colonne de plus en plus, elle est montée jusqu'à 10 mètres, et ça a duré pendant 36 ans. Et pendant 36 ans, Simon, le styliste, a vécu là au sommet de sa colonne. On a même rapporté qu'il avait touché ses pieds avec son front plus de 1244 fois d'affilée sur sa colonne. Tout cela au nom de la recherche de la sainteté. Une fausse conception de la séparation. Certains de ces candidats à la sainteté ont été enfermés dans des cages suspendus au sommet de collines et ont chanté des psaumes à tue-tête dans le vent en pensant que de cette manière ils allaient trouver la sainteté. D'autres sont montés dans des arbres et n'en sont plus descendus, les dendrites, de dendron, arbre. C'était peut-être cela qui a donné lieu à la croyance dans l'évolutionnisme. Et nous pourrions ajouter tant et tant d'autres exemples. Je pense au sein du judaïsme, à ce mouvement qui s'est développé et qui était très, très pur au départ. Ces hommes qui, en Israël, essentiellement au IIe siècle à peu près, avant Jésus-Christ, ont réagi contre une espèce de syncrétisme, de mélange, de corruption qui s'installait dans le judaïsme, toute une influence venant de la Grèce, et qui ont décidé de s'arc-bouter à la sainteté selon les écrits de la loi mosaïque. On les a appelés les pharisiens. Ah, au départ, c'était quelque chose de bien. Pharisien vient d'un terme hébreu, pharash, qui veut dire être séparé, c'était les séparés. Ils voulaient être séparés pour Dieu. Et vous savez ce que les pharisiens sont devenus au regard du Seigneur Jésus. Comment le Seigneur Jésus, hélas, les a fustigés, mal considérés, pharisiens aveugles. Purifie premièrement l'intérieur afin que l'extérieur devienne pur. Qu'est-ce qu'un disciple de Christ ? Être chrétien, est-ce que c'est ne pas danser ? Ne pas fumer ? Ne pas aller au cinéma ? Ne pas regarder la télévision ? Est-ce que c'est ça, être disciple de Jésus-Christ ? Mais bien aimé, je vais vous dire, si c'est ça, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour répondre à ces exigences. Voulez-vous que je vous en donne des illustrations ? En France, il y a eu un concours à un moment donné, organisé par un journal régional et destiné à découvrir dans le pays le citoyen le plus à cheval sur les principes, le plus vertueux, le plus sobre. Et parmi les nombreuses lettres adressées à la rédaction du journal figurait celle-ci : je ne fume pas. Je ne bois jamais d'alcool, je ne joue pas, je suis fidèle à mon épouse, je travaille dur, je suis paisible et docile, je ne vais ni au cinéma ni au théâtre, je me couche tôt et me lève à l'aube, j'assiste à l'office tous les dimanches, et il y a 3 ans que je mène cette vie-là. Il était sûr de gagner. Le seul problème, c'est qu'il avait ajouté quelques mots de trop. Mais attendez, quand on m'aura relâché, il était en prison. Être disciple de Jésus-Christ, c'est d'abord avoir été visité dans son cœur. C'est avoir été visité dans son cœur par le Seigneur. Et quand le Seigneur remplit le cœur, lorsqu'on cultive une intimité avec lui, alors les idoles doivent disparaître. Nous avons tendance, c'est la chair, c'est l'ordre du diable. Voyez comment le diable renverse l'ordre de Dieu. Le diable dit commencez par l'extérieur et puis ça ira mieux dedans. Non. Dieu dit, c'est dans l'intérieur que ça doit changer. Si ton cœur, si tu acceptes que ton cœur soit visité par moi, et que cette coupe de ta vie soit purifiée par mon sang, alors mon esprit va transformer ce cœur de pierre et va en faire un cœur de chair. Et il va y avoir une transformation. Dieu dit, c'est dans l'intérieur que ça doit changer. Si ton cœur, si tu acceptes que ton cœur soit visité par moi, et que cette coupe de ta vie soit purifiée par mon sang, alors mon esprit va transformer ce cœur de pierre et va en faire un cœur de chair. Et il va y avoir une transformation extérieure évidente. Évidente. Je pense à cette belle nature autour de nous. Que va-t-il se passer bientôt? Tous les arbres à feuilles caduques vont se dévêtir d'un merveilleux manteau multicolore. Pourtant, ils ne se dévêtiront pas complètement. Il va rester curieusement, miraculeusement, tout au long de l'hiver, même le plus rigoureux, des feuilles mortes, attachées, on ne sait par quel miracle, et tintant, n'est-ce pas, au vent, parfois les plus furieux. Le printemps va arriver et c'est sous la poussée de sève, passant de branche en branche et redonnant la vie à l'arbre, c'est sous la poussée de sève que ses feuilles vont tomber. Ce que le vent n'aura pas réussi à faire, ce que les tempêtes n'auront pas réussi à faire, ce que la neige même n'aura pas réussi à faire, la sève venant de l'intérieur va le produire. Et tout notre problème est là. Nous présentons si souvent des apparences de sainteté. Mais des apparences de sainteté qui ne trompent pas Dieu. Ce qui nous manque, mes bien-aimés, et surtout dans notre temps où nous sommes si forts pour l'organisation, il nous manque la vie. Quand le Seigneur remplit le cœur, les idoles doivent disparaître. Je pense à ce grand sculpteur, Daneker, qui était un croyant convaincu. Et pendant 8 ans, il s'attacha à essayer de transcrire dans le marbre la connaissance personnelle qu'il avait de Jésus-Christ. Et on ne pouvait regarder au bout de 8 ans cette statue sans être ému tant elle exprimait la force mêlée de tendresse du Christ. Et Napoléon voulut alors lui commander une Vénus qui, sortie des mains de ce génie, serait plus belle que la Vénus de Milo ou celle de Médicis. Et Daneker remercia poliment ceux qui lui rendaient un tel hommage, et Napoléon en particulier, et répondit simplement ceci, « Je ne pourrai jamais faire une Vénus comme vous l'entendez, après avoir regardé si longtemps le visage du Christ, parce qu'il avait lu et relu et relu et relu encore les évangiles pendant ces longues années. » Ça, c'est la sainteté qui part du bon côté. Mais voyez-vous, notre problème, c'est que nous avons tant de réserves mentales dans ce domaine. Nous sommes les partisans de ce qu'on appelle la casuistique jésuite. Nous sommes rusés, nous avons tendance à être fourbes, calculateurs, et nous avons tant de peine à accepter de mettre toute notre vie sur l'autel. Toute notre personne, notre cœur tout entier, Et vous savez que rien n'est plus terrible qu'un cœur partagé. Un cœur partagé, je le dis, c'est l'enfer dans la vie du croyant sur la terre. Si nous sommes disciples de Christ, nous ne connaîtrons jamais cette séparation éternelle, épouvantable, d'avec la vie même, la lumière même, l'amour même, dans la personne de Dieu en Jésus-Christ. Mais nous pouvons connaître cet enfer sur la terre. Il n'y a rien de pire que de vivre sur la terre dans le souvenir de notre premier amour, mais avec un cœur partagé, un cœur desséché, avec une sorte de sainteté formelle, apparente, où nous faisons des actes cultuels, mais où la vie n'est plus là.
J'ai beaucoup aimé dans mon enfance l'histoire d'un héros français de la Première Guerre mondiale, Georges Guynemer. Un bon nombre de rues dans nos villes et villages en France portent le nom Georges Guynemer. C'était un héros de l'aviation qui est décédé au champ d'honneur, comme on dit, en 1917. Et il avait une devise. On n'a rien donné quand on n'a pas tout donné. On n'a rien donné quand on n'a pas tout donné. Et la vraie sainteté met le cœur tout entier sur l'autel. La vraie sainteté donne tout. Il est arrivé que des amis, à la sortie d'une étude, me disent « Mais, frère, croyez-vous qu'il faille être si absolu dans ce domaine ? Ne pensez-vous pas que vous exagérez quelque peu ? » Non. Non. J'ai lu il y a quelques années, dans notre pain quotidien, qui m'est très cher, je suis en relation tous les jours avec le Québec par notre pain quotidien. Et il y a quelques années, je lisais cette illustration absolument saisissante. Concernant une personne, on va admettre que ce soit moi, en l'occurrence, et que, pour la circonstance, j'habite dans la région de Chicoutimi. Et habitant dans la région de Chicoutimi, un jour, j'installe une pancarte devant ma maison ou à l'entrée d'un de mes champs, indiquant « champ à vendre ». Vous adressez à tel numéro de téléphone, entre parenthèses, Maurice Decker. C'est un champ très important, très vaste. Il y a de la place ici. Et vous vous dites, « Oh, mais comme c'est un frère qui connaît le Seigneur, il va peut-être me faire un prix. » Et vous venez donc me voir et vous me demandez d'articuler une somme. Et je prononce donc un nombre avec un certain nombre de zéros et quelque chose devant. Et vous êtes heureux, vous dites, « Ah, il est évangélique, c'est vraiment un frère. » Et vous vous apprêtez à m'entraîner chez le notaire pour signer l'acte de vente. Mais, je précise au préalable qu'il y a deux clauses restrictives. Première clause, oh, c'est très simple. Ce champ a appartenu à mon papa, à mon grand-papa, à mon arrière-grand-papa, et on peut remonter très loin dans l'histoire. Donc il a une valeur sentimentale très forte. Je voudrais donc en garder un petit morceau. Tout petit morceau, comme un timbre-poste sur une grande enveloppe. Pas plus que cela. Alors vous vous dites, oh, on peut bien faire ça à ce frère, et vous regardez le terrain, vous dites, oh, je vais lui mettre son timbre-poste là-bas. Hein, c'est la partie la plus mauvaise du terrain.
Mais il y a une petite précision à cette première clause.
Tu sais, mon frère, j'aimerais tellement chaque jour pouvoir regarder autour de moi et en me tournant de tous côtés, contempler tout ce passé glorieux de mes parents. Alors, ce petit timbre-poste, il faut me le mettre au milieu. Ah. Là, ça commence à être un petit peu plus gênant. Et puis, il y a une seconde clause restrictive qui va de soi, en tout cas dans la législation française. C'est que, bien entendu, je ne suis pas assez riche pour me payer un hélicoptère qui me permette d'arriver tout droit du ciel et de me poser sur mon timbre-poste pour pique-niquer. Il est donc prévu que j'ai un droit de passage. Je vous pose une question. Est-ce que si j'étais le vendeur en réalité et que je vous propose un tel contrat à signer devant notaire, est-ce que vous accepteriez? J'espère que non. Sinon, mon idée du Québec et de mes chers amis québécois baisserait sensiblement. Mais voyez-vous, c'est ainsi dans notre vie. Si nous ne mettons pas tout sur l'autel, si ce n'est pas notre cœur tout entier, s'il y a des réserves mentales et malgré toutes les apparences de sainteté, chaque portion que nous laissons entre les mains de la puissance des ténèbres lui permet de piétiner tout ce que nous avons déjà consacré au Seigneur. Parce que le diable utilise la règle du droit de passage. Et c'est ce qui a fait dire, notamment à Hudson Taylor, combien peu de personnes dans le peuple de Dieu ont reconnu que si Christ n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. C'est là notre problème concernant la sainteté. Toutes ces réserves, toutes ces machinations, tous ces calculs, alors que nous nous réfugions derrière des actes de sainteté apparente, nous calculons et notre cœur n'est pas droit devant Dieu. Daniel décida dans son cœur. Dans son cœur. Il me reste, avant de dire quelques mots de conclusion, à souligner un dernier aspect. Nous avons évoqué la sainteté purification de la conscience. Nous avons évoqué la sainteté séparation pour, mise à part pour le Seigneur. Séparation au niveau du cœur, dans les profondeurs de notre personnalité. Il me reste simplement à souligner que Daniel s'est démarqué ouvertement. Il a pris une position claire, sans confusion possible. Il a dit en quelque sorte, « Mes amis, voilà de quel côté je suis. Voilà qui je sers. » Il n'a pas essayé de louvoyer. Il n'a pas essayé de faire ce que certaines rivières paresseuses font. Lorsqu'elles rencontrent un terrain ou du roc dur, elles le contournent pour creuser là où la terre est mal, recontourner là où c'est plus dur, recreuser là où c'est mou, et vous savez les méandres que cela provoque. Daniel n'avait pas une vie de méandre, sinueuse, tortueuse. Daniel
refuser de vivre dans le flou. Nous sommes, mes bien-aimés, dans un monde où tout est gris. Nous sommes dans un monde où tout est flou. On n'aime pas, dans le monde moderne, les teints bien tranchés, les choses claires, les choses nettes. Parce que ce qui est net dérange. Martin Luther King disait dans un de ses sermons que nous avons le choix entre être des chrétiens thermostats et des chrétiens thermomètres. Le thermomètre ne fait que indiquer la température du lieu dans lequel vous êtes. Transportez-le de lieu en lieu, il change au fil des changements. Le thermostat modifie un mécanisme qui amène un changement de température. Nous avons le choix. Daniel était un croyant thermostat. Il modifiait l'ambiance là où il passait. Ce n'était pas un caméléon changeant de couleur d'endroit en endroit. Dieu dit non aux attitudes équivoques et douteuses. Et trop souvent, nous avons cette tendance à nous tenir à la lisière du peuple de Dieu. Dans toutes les églises évangéliques, vous avez des personnes dont on ne sait pas très bien si elles sont du côté de Jésus-Christ ou du côté de la puissance des ténèbres. Quand vous posez la question aux serviteurs de l'endroit, on vous dit « on ne sait pas ». Ce sont des sympathisants. Ils se plaisent avec nous. Parfois même, ils ne manqueraient pas une réunion. Et pourtant, nous sommes incapables de dire où ils sont. Et la vie rétrograde se manifeste très souvent dans ces premiers temps par un retour vers la lisière de la sainteté. On s'installe à la lisière du peuple de Dieu. On compose avec le milieu. On s'installe dans ce qu'on appelle en France, je ne sais pas si au Québec on le dit ainsi, on s'installe dans une vie entre chien et loup. Vous savez que lorsqu'on circule sur la route, il y a des moments très dangereux dans nos journées. C'est le matin et le soir. Au moment où on passe de la nuit au jour, et au moment où l'on passe du jour à la nuit. Il y a une période difficile où le nombre d'accidents sur la route monte de manière vertigineuse. Cela s'appelle être entre chien et loup. On ne distingue pas les choses. C'est dangereux. Trop souvent dans notre vie de disciples de Christ, nous nous installons entre chien et loup. Comme ce paysan qui vivait à la frontière des deux antagonistes durant la guerre de sécession aux USA. Comme il ignorait la tournure que prendrait la guerre et qu'il voulait être bien avec les deux fronts, il décida de revêtir la tunique des nordistes et le pantalon des sudistes. En pensant que de part et d'autre, on le reconnaîtrait au moins partiellement comme un ami. Mais il s'était trompé dans son calcul. Chacun n'a vu que la portion de l'habit qui appartenait au camp ennemi. Et on lui a tiré dessus des deux côtés. C'est dangereux de vivre comme ça à la lisière.
J'ai découpé dans une revue profane une illustration qui m'a beaucoup amusé, mais qui veut dire beaucoup de choses. Ça se passe dans la région de Genève, donc juste à la frontière suisse, au bord du lac Léman. Et un Genevois, par mesure d'économie, achetait ses costumes en France, dans une localité proche de la frontière. Et ce qu'il faisait, en général, c'est qu'il se changeait dans le magasin où il abandonnait son vieux costume.
Mais une fois, il a été pressé par le temps. Il a dû se changer dans le train du retour. Alors, il s'est enfermé dans les toilettes. Et bien sûr, il a jeté dans la cuvette son vieux costume. Et quand il a ouvert le carton qui devait contenir le costume neuf, c'est authentique, il a découvert la veste, mais il avait oublié le pantalon. Et il a dû faire appel au douanier. On est venu le sortir de son embarras, mais bien sûr, il a payé une sérieuse amende. Et je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Jouer avec la frontière dans notre vie de disciple de Christ, c'est vraiment jouer avec le feu. Et Daniel nous interpelle en ce qui concerne la qualité de nos choix, la profondeur de nos choix. Où nos choix s'arrêtent-ils? Quelle est la part de bricolage dans chacun de nos choix? La parole de Dieu le dit de même, que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saint dans toute votre conduite. Ne trichez pas, ne jouez pas, ne calculez pas. Que le cœur tout entier soit mis sur l'autel et qu'à partir de là, tous les compartiments de votre vie soient marqués de cette vie de sainteté de Christ demeurant en vous. C'est frère André qui a dit, nous devons être radicalement pour Jésus et radicalement contre le diable. Notre non doit être aussi fort que notre oui, afin que le monde connaisse notre position. Ma conclusion sera très brève. Elle figure au verset 21. Ce verset n'est pas là par hasard. Rien n'est par hasard dans les Écritures. Et le verset 21 dit ceci, « Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. » Pourquoi cette indication? Tout simplement pour souligner que cette prise de position courageuse, suivi d'ailleurs de 10 jours difficiles dont nous parlerons demain matin, parce que demain matin nous étudierons les versets 9 jusqu'au verset 16. Ces 10 jours très difficiles, fruit d'une résolution du cœur, d'un choix vrai, entier, ces 10 jours ont été le point de départ de 70 années de témoignages remarquables à la cour de plusieurs rois. 10 jours, une grande résolution, 70 ans de conséquences. Est-ce que vous vous rendez compte? Je pense que sans ce choix clair, il n'y aurait pas eu de livre de Daniel. Il n'y aurait pas eu de vie riche en bénédiction pour les croyants de tous les temps, dont nous-mêmes, en 1990. Voyez-vous, choisir Dieu, choisir le Christ dans le monde moderne, c'est se démarquer ouvertement, comme nous l'avons vu, et cela a des répercussions pour la vie et l'éternité. Plus rien ne sera comme auparavant. Et il est des décisions de ne pas se souiller ou de rompre avec la souillure qui engage notre vie et notre avenir tout entier. Nous aurions pu parler, en évoquant le nombre de jeunes qui sont ici, de la décision du mariage, de ces étapes tellement stratégiques qui, suivant notre choix, notre obéissance au Seigneur, peuvent avoir des conséquences de bénédiction extraordinaires pour toute notre vie ou entraîner un cortège de souffrances pendant toute la suite de notre existence. Oh, certes, avec toute la grâce de Dieu,
qui va pardonner, qui va relever, qui va même se servir des conséquences pour nous faire grandir en maturité. Mais les conséquences seront là quand même.
Il y a des décisions dans le domaine du mariage, il y a des décisions dans le domaine de la sexualité qui ont des répercussions pour notre vie entière. Il y a des choix comme ceux que nous pouvons faire pendant cette conférence qui peuvent être porteurs de bénédictions pendant toutes les années à venir.
Il y a des refus de choisir qui peuvent entraîner aussi des conséquences pour toutes les années à venir. Il y a des heures dans le plan de Dieu que nous n'avons pas le droit de manquer. Il y a des moments où l'appel de Dieu est particulièrement solennel et fort. Oh, Dieu donnera peut-être une autre occasion, deux autres occasions, trois autres occasions. Mais ce sera peut-être déjà beaucoup plus difficile. Souvenons-nous de cela. Si nous voulons aller loin, il importe que nous commencions bien. Oh, que Dieu nous donne cette grâce de bien choisir, de choisir sérieusement, de choisir de tout notre cœur, sans aucune réserve, en lui donnant la place qui lui revient. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour l'exemple du jeune Daniel et de ses compagnons. Merci pour cette résolution du cœur, non pas une décision superficielle, en surface, formelle, traditionnelle, mais quelque chose qui a jailli du plus profond de son être à cause de sa relation avec toi. Nous voulons, Seigneur, venir ce soir déposer à tes pieds toutes nos combines, toutes nos réticences, toutes nos résistances, toutes nos réserves mentales, toutes nos machinations. Seigneur, c'est vrai, pardon pour notre cœur, tortueux par-dessus tout, notamment dans ce domaine de la sainteté. Pardon pour la manière dont nous nous séduisons nous-mêmes, par de faux raisonnements, dont nous sommes capables de te faire menteur en trafiquant ta parole pour justifier parfois nos actes les plus répréhensibles. Seigneur, ce soir, par ton esprit, attire-nous irrésistiblement au pied de la croix, à ta lumière, pour que nous confessions tout ce qui a été tordu dans notre sainteté, les mauvais choix qui ont engendré parfois tant de souffrances. Ô Seigneur, visite-nous. Nous en avons tant besoin pour que le peuple qui ne te connaît pas ici au Québec puisse être touché par notre témoignage. Témoignage de vie vraiment transformée, d'une sainteté non légaliste, mais parce que nous aurons vraiment tout pleinement trouvé en toi, en ton Fils, en mettant tout sur l'autel. Je voudrais que nous restions dans la prière simplement, et bien qu'il y ait encore une rencontre demain, pendant que nous prions, nous restons dans la prière. Je crois que ce soir peut être l'occasion, après cette riche journée de réflexion, de prière, de méditation de la parole, cette soirée peut être l'occasion de faire le point. Ça peut être pour certains d'entre nous un nouveau départ. Dieu a certainement mis le doigt sur certains mauvais choix, sur certaines apparences de sainteté, sur certaines réserves, certaines portions de territoire non consacrés. Alors ce soir, il nous a donné rendez-vous pour que nous mettions les choses au point et que nous venions à la croix, où il nous attend, et que nous lui disions clairement, « Seigneur, voilà, je dépose cela à tes pieds. Je te demande pardon pour ce choix. Tu m'as convaincu, tu as taraudé, travaillé mon cœur aujourd'hui. Pardon. Pardon pour cette résistance. Pardon pour cette portion de territoire que j'ai gardée pour moi jusqu'ici. Pardon pour la façade de sainteté qui ne correspond pas à la réalité dans mon cœur. Pardon pour l'Égypte cachée en moi. Seigneur, je dépose tout à la croix. J'en ai assez, je suis fatigué, je suis à sec. J'en ai assez de vivre ce combat. Alors je viens à toi. Et je dépose tout au pied de la croix. Et je veux vraiment repartir avec toi dès ce soir. Seigneur, tu connais mon cœur, tu lis. Tu vois tout, je n'ai plus rien à te cacher. Seigneur, je plaide coupable. Viens me visiter. Par ton sang, purifie et remplis-moi tout à nouveau du Saint-Esprit pour que ma vie puisse déborder. Alors si les uns et les autres, nous avons peut-être fait cette prière dans notre cœur, si nous la faisons en ce moment, et si Dieu vous y invite, et je sais qu'il peut le faire, il l'a fait dans ma vie à diverses reprises, s'il vous invite à une nouvelle consécration, eh bien marquez-le ce soir. Et je voudrais vous encourager de la part de Dieu à le marquer simplement en vous levant à votre place, simplement ceux et celles auxquels le Seigneur dit dans leur cœur, « Lève-toi, prends position. » Clairement, de ton cœur vers ton corps, n'est-ce pas? Alors lève-toi. Et c'est un nouveau début pour toi. Alors nous restons dans le silence, et les uns et les autres, qui sont appelés par le Seigneur, simplement, qui le savent dans leur cœur, parce que le Seigneur parle clairement quand il parle, alors ils se lèvent. Maintenant, sans penser à autrui, c'est pour le Seigneur. Ils se lèvent à leur place, pendant que nous nous tenons dans le silence. Et puis s'il y a parmi nous des amis qui veulent rencontrer le Christ, être purifiés par le sang de Jésus, comme nous l'avons dit cet après-midi, qui brûle maintenant du désir de le recevoir, eh bien, qu'ils se lèvent aussi au même moment. Et nous terminerons en priant les uns pour les autres. Alors je me tiens dans le silence, dans la prière avec les uns et les autres. Et vous vous levez si le Seigneur vous a dit quelque chose de bien précis pour vous amener à une nouvelle consécration. Seigneur notre Dieu, merci de continuer à nous visiter. Bénis ces amis que tu as conduits à se lever. Tu sais pourquoi. Tu connais leur cœur, leurs besoins, leurs cris, leur engagement. Seigneur, bénis-les et visite-les tout particulièrement dans cette décision de ce soir. Et puis nous te prions les uns pour les autres. Nous avons tous tant besoin de toi. Notre cœur est le même. Oh, continue à travailler en nous pour que nous cédions à la voix et à l'action de ton esprit dans nos vies. Oh, nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur lorsque tu nous exposes à la lumière de ta parole pour notre affranchissement. et pour notre croissance à la ressemblance de ton Fils Jésus-Christ. Prends en main la suite et la fin de cette soirée et prolonge tout ce que nous avons partagé ensemble sous ton regard durant toute cette journée. C'est avec reconnaissance et dans le nom de Christ que nous t'avons prié.